Bon, décortiquons tout ça. Il faut vraiment se représenter la collision inévitable entre deux mondes que tout, mais absolument tout, sépare.
C'est clair, on est sur un choc des cultures monumental.
Exactement. D'un côté, on a un officier supérieur de la plus redoutable machine de guerre de l'Antiquité, le symbole vivant de l'oppression impériale, et de l'autre, un pêcheur judéen de tradition très stricte.
Un homme prêt à mourir plutôt que de briser le moindre tabou alimentaire de ses ancêtres, oui.
C'est ça. Le but de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est d'analyser comment cette rencontre inattendue a accidentellement posé les fondations d'un réseau mondialisé.
Et pour ça, on va s'appuyer sur les notes de cours très détaillées du docteur Craig Kinner. Il analyse en fait les chapitres 10 et 11 du livre des Actes.
Ouais, des documents fascinants.
Complètement. Ce qui émerge de ces sources, ce n'est pas juste de la théologie pure. C'est, je dirais, la dissection clinique d'un changement de paradigme. On a sous les yeux l'anatomie d'un mouvement, rural, très circonscrit, qui va devoir pulvériser ses propres frontières identitaires pour survivre et s'étendre.
Et le récit s'ouvre sur ce premier personnage, Corneille, qui est posté à Césarée. Le texte le présente comme un centurion romain et un craignant Dieu.
Oui, un terme très spécifique à l'époque.
Pour clarifier pour notre public, les sources historiques décrivent ces craignants Dieu comme des gentils, donc des non-juifs, qui sympathisaient avec le monothéisme juif.
Ils donnaient l'aumône, respectaient certaines règles éthiques.
Voilà, mais ils refusaient la ligne de démarcation ultime, la circoncision. Donc en gros, ils restaient à la porte.
Exactement. Et le statut militaire de Corneille, ce n'est pas juste un détail d'arrière-plan. La machine militaire romaine exigeait une loyauté absolue. Ce qui impliquait des règles de vie privées d'une rigidité inouïe.
Comment ça ?
En fait, le droit romain officiel interdisait formellement aux soldats en service actif de se marier légalement. Et le service durait 20 ans.
Attends, 20 ans sans la moindre reconnaissance légale pour une famille. Mais comment l'armée gérait ça sur le terrain ?
En fermant les yeux sur un système parallèle. La réalité, c'est que ces hommes vivaient avec des concubines.
Ah, d'accord.
L'armée tolérait ces unions informelles. Et ce n'est qu'au moment de la retraite du soldat que ces femmes obtenaient soudainement le statut d'épouse légitime et la citoyenneté pour leurs enfants par la même occasion.
C'est fou. Mais Corneille, ce n'est pas un simple fantassin, si.
Non. En tant que centurion, sa réalité économique est d'un tout autre niveau. Un centurion de base gagnait environ 15 fois la solde d'un légionnaire ordinaire.
15 fois ? Ah oui, c'est énorme.
Et les plus hauts gradés pouvaient toucher jusqu'à 60 fois ce salaire. On parle d'un homme extrêmement riche, capable d'entretenir une vaste maisonnée, des serviteurs et d'exercer une influence sociale majeure dans une ville comme Césarée.
Donc, pendant que Corneille utilise cette richesse pour s'approcher du judaïsme, la religion juive elle-même vit une crise existentielle à une cinquantaine de kilomètres de là.
À Jopé, oui.
C'est ça. Sur un toit plat, à midi, Pierre a très faim, il prie et la narration décrit une vision. Un drap descend du ciel, rempli d'animaux purs et impurs totalement mélangés.
Et c'est précisément ce mélange qui rend le tout catégoriquement impur selon la loi rituelle.
Et le rejet viscéral de Pierre face à ça, c'est fondamental pour comprendre la suite, non ?
Absolument. Ce n'est pas un simple dégoût passager. Le professeur Kenner rappelle d'ailleurs une comparaison biblique avec le prophète Ézéchiel.
Ah oui, l'histoire de la cuisson.
Voilà. On a demandé à Ézéchiel de cuisiner sur des excréments humains en signe de jugement divin. Et il était tellement horrifié, son identité sacerdotale était tellement violée par l'idée que le récit précise que la consigne a été adoucie.
Dieu a autorisé la bouse de vache à la place, c'est ça ?
Exactement. Pierre ressent cette même horreur absolue devant cette vision d'animaux impurs.
Faisons une analogie viscérale pour que chacun puisse bien mesurer le poids de la chose. Ce n'est pas comme forcer quelqu'un aujourd'hui à manger un insecte, quoi.
Non. C'est bien plus profond que ça.
C'est, je dirais, l'équivalent de demander à un diplomate de piétiner publiquement le drapeau de son propre pays lors d'un sommet international. Manger ça, pour Pierre, c'est une trahison nationale.
C'est une excellente comparaison.
Ses ancêtres, les Maccabées, ont été torturés et sont morts littéralement plutôt que de manger du porc. La nourriture, c'est le mur porteur de leur identité ethnique.
Et la narration pousse ce mur porteur jusqu'au point de rupture, parce que l'ordre dans la vision n'est pas juste de tolérer ces animaux.
C'est de les manger.
Oui, d'assimiler l'impur. Et pendant que cette énorme tempête psychologique se déroule sur le toit, la réalité vient littéralement frapper au portail en bas.
Les fameux messagers de Corneille ?
C'est ça. Ils arrivent.
Et le lieu même de cette rencontre, c'est très symbolique. Le texte précise qu'ils sont chez Simon le tanneur.
Un détail qui a toute son importance.
Carrément, le travail du cuir dans l'Antiquité, c'était une industrie repoussante. On utilisait de l'urine et des excréments pour traiter les peaux. Ça sentait tellement mauvais que ces ateliers étaient toujours relégués à la périphérie des villes.
Près de l'eau en général.
Voilà. Donc le simple fait que Pierre loge chez un tanneur montre qu'il est déjà en train d'évoluer dans une zone grise de la pureté rituelle aux marges de la bonne société.
Ce qui est fascinant ici, c'est l'attitude des messagers romains. Ils s'arrêtent à l'extérieur. Ils appellent depuis la rue au lieu d'entrer.
Parce qu'ils sont des gentils impurs, non ?
Exactement. La société antique est codifiée à l'extrême. Ces soldats savent très bien que leur présence physique sous le toit d'un juif pieux rendrait la maison rituellement impure.
Ils respectent la barrière physique.
Oui, mais le récit prend une tournure inattendue. Pierre descend et il les invite à passer la nuit. L'hospitalité prend soudainement le pas sur la séparation stricte voulue par les pharisiens.
D'accord, il les héberge, ce qui est déjà audacieux. Mais le lendemain, en route pour Césarée, le texte indique que Pierre prend 6 compagnons juifs avec lui.
Oui, un groupe conséquent.
Et là, moi, je bloque un peu. J'ai un vrai problème de logique. Mais pourquoi exactement 6 hommes ?
Comment ça ?
Mais s'il était intimement convaincu d'obéir à une vision divine, pourquoi s'encombrer d'une escorte ? Ça ressemble plus à une manœuvre politique qu'à un acte de foi pure, tu vois ?
Mais c'est totalement une manœuvre politique. Pierre est un homme très pragmatique. Il anticipe le procès social qui l'attend à son retour.
Ah, pour se couvrir ?
C'est ça. Le droit hébraïque, basé sur le livre du Deutéronome, établissait qu'il fallait le témoignage concordant de 2 ou 3 personnes pour valider juridiquement un fait.
D'accord.
Pierre sait que ce qu'il s'apprête à faire entrer chez un officier de l'occupation romaine va choquer tout le monde. Alors il ne prend pas juste 2 témoins, il en prend 6.
Le double du maximum requis.
Voilà, c'est une protection juridique intelligente. Il construit une forteresse pour se protéger de la tempête institutionnelle.
Ce qui nous mène tout droit au choc culturel à Césarée. Pierre franchit le seuil et Corneille, ce richissime commandant militaire romain, tombe carrément à genoux devant un pêcheur de Galilée.
Une scène incroyable.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Pierre refuse cet hommage. Il le force à se relever.
L'enjeu derrière ce geste est colossal. En Orient, se prosterner devant un émissaire royal était banal. Mais dans la sphère romaine de Corneille, cet acte d'hommage physique frôlait la ligne rouge.
Celle du culte impérial en a-t-il ?
Exactement. Se prosterner était réservé à l'empereur. C'était un acte extrêmement chargé politiquement. Pierre désamorça tout de suite. Et ensuite, il attaque frontalement l'éléphant dans la pièce.
Il explique que les Juifs ne banquettent pas avec les gentils.
C'est ça. Il déclare publiquement que tout le monde sait à quel point il est illégal pour un Juif de s'associer de près à un étranger.
Ce qui leur valait une réputation terrible à l'époque, d'ailleurs.
Oui, des auteurs antiques les accusaient d'être des misanthropes, des ennemis du genre humain, juste à cause de cette séparation stricte au repas.
Pierre commence alors son discours et il décrit Jésus en utilisant le terme de « bienfaiteur ».
Un choix de mots qui n'est pas dû au hasard.
D'après les notes, c'est le langage politique par excellence dans le monde gréco-romain.
Tout à fait. Les empereurs et les riches mécènes se faisaient appeler des « bienfaiteurs publics ». Pierre traduit en fait son message dans la langue culturelle de son auditoire romain.
Mais selon le texte, il n'a même pas le temps de finir sa phrase. L'événement central se produit soudainement. L'Esprit-Saint interrompt le sermon et ses gentils se mettent à parler en langue.
Et cette interruption, bien que ce soit un procédé littéraire courant dans l'Antiquité, c'était ici perçu comme un événement bien réel. C'est le point de bascule.
Pourquoi c'est si décisif ?
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, il faut comprendre la mécanique théologique de l'époque. On pensait que l'esprit n'était disponible que pour l'élite absolue de la piété.
Des gens hyper respectés.
Comme le sage Hillel, par exemple. Et encore, la tradition disait que sa génération était trop corrompue. De plus, on croyait fermement que c'était le privilège exclusif d'Israël.
Donc voir des soldats romains qui mangent du porc et ne connaissent rien à la Torah, recevoir cette validation ultime.
Ça détruit tout simplement l'infrastructure religieuse. L'argument de la circoncision physique s'effondre en une fraction de seconde.
Parce que Dieu les accepte tels quels.
Exactement. Si la divinité accepte ces gens dans leur état brut, non circoncis, la loi rituelle devient obsolète comme critère d'entrée. C'est pour ça qu'ils sont immédiatement baptisés dans l'eau. Pierre entérine sur terre ce qui vient de se passer.
D'accord, l'acte est validé sur le terrain. Mais Pierre sait très bien qu'il reste un énorme obstacle. Expliquez ça au quartier général conservateur à Jérusalem.
Le fameux retour de bâton.
Oui, il est convoqué. Et l'accusation, ce n'est pas « tu as prêché à des Romains ». C'est « tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ».
C'est l'aspect rituel et social qui choque profondément l'institution.
Et là, j'avoue, je suis un peu cynique. La défense de Pierre se résume fondamentalement à « Dieu m'a donné une vision et m'a dit de le faire ».
Oui, vu de l'extérieur, ça peut paraître facile.
De nos jours, dans n'importe quel débat rationnel, c'est l'excuse parfaite et incontrôlable pour justifier n'importe quel abus sans assumer ses responsabilités, non ?
Ce scepticisme est totalement sain, et cela soulève une question importante sur la rhétorique de l'époque.
Ah bon ?
Oui. Dans l'Antiquité gréco-romaine, on appelait ça l'argument de la nécessité divine. Plaider que les dieux vous ont forcé la main était un moyen de défense très courant.
Une sorte de joker juridique ?
Voilà. Mais la subtilité brillante, c'est que Pierre ne s'appuie pas juste sur sa parole ou sa vision privée. Et c'est là que sa stratégie paie.
Les six compagnons.
Exactement. Il aligne six témoins oculaires issus de leur propre camp. Et ces témoins certifient un fait matériel irréfutable pour eux.
Le fait que les gentils ont parlé en langue.
C'est une donnée empirique. Face à cette conjonction de témoignages légaux, le quartier général de Jérusalem est choqué. Mais il cède.
Et cette exception approuvée change tout. La porte est ouverte pour que ce mouvement quitte son berceau judéen et s'attaque à l'une des plus grandes métropoles du monde.
On passe de la Galilée rurale à Antioche.
Le changement de décor est total. Pour planter le décor pour quiconque nous écoute, Antioche, c'est la troisième ou quatrième plus grande ville de l'Empire romain.
Une vraie mégalopole pour l'époque.
Entre 300 000 et 400 000 habitants. C'est le quartier général de la Légion syrienne, le centre d'un culte à Apollon. C'est extrêmement diversifié.
Le New York ou le Londres de l'Antiquité, en somme.
C'est ça. Et les acteurs de cette expansion ne sont même pas les leaders officiels. Ce sont des croyants qui fuient les persécutions.
Originaires de Chypre et de Cyrène, oui. Ils arrivent à Antioche, et là, rupture stratégique. Ils ne parlent plus seulement aux Juifs.
Ils s'adressent aux hellénistes.
Voilà, des résidents d'origine grecque ou des Syriens très hellénisés. Le groupe se métisse à une vitesse folle. Et ça, Jérusalem veut le contrôler.
Et c'est là qu'intervient Barnabas. Son rôle est décisif.
Barnabas est un homme brillant, connu pour faire confiance au travail de Dieu chez les gens. Il faut bien comprendre la dynamique de l'époque.
Dis-nous tout.
Vous aviez des écoles très strictes, comme l'école de Shammai. Eux, leur logique face à l'Empire romain, c'était de construire des murs infranchissables.
Pour éviter l'assimilation.
Exactement. À l'opposé, un sage comme Hillel croyait à l'engagement et l'ouverture. Barnabas est clairement dans cette filiation de tolérance.
Contrairement à des personnalités plus combatives.
Oui. Barnabas constate la croissance de ce groupe mixte et il a la lucidité de voir qu'il n'a pas le profil pour encadrer tout ça.
Donc il parcourt 100 miles, environ 160 km à pied vers le nord, jusqu'à Tarse.
Pour aller chercher Paul.
Mais pourquoi Paul ? Pourquoi faire tout ce chemin pour lui ?
Parce que traduire une idée rurale judéenne pour un public grec urbain, c'est hyper complexe. Comment expliquer le concept de Messie, un roi ouin, à un grec qui voit les dieux de l'Olympe comme des entités capricieuses ?
Ça n'a aucun sens pour lui.
Rhétorique hellénistique, il sait encapsuler la théologie juive dans des concepts philosophiques grecs.
Il fait le pont, en fait.
Absolument.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre monde contemporain ? C'est une leçon d'adaptabilité. Le judaïsme de la diaspora avait déjà appris à parler la langue culturelle des villes païennes.
C'est la clé de leur survie.
Si l'on veut diffuser des idées nouvelles aujourd'hui, ça rappelle l'importance vitale de la flexibilité culturelle et de briser les silos.
Et cette flexibilité à Antioche a eu des conséquences durables. C'est là-bas que le terme « chrétien » est inventé.
L'origine d'un mot aujourd'hui mondial, quoi.
Oui, mais l'ironie, c'est que ce n'était pas du tout un terme religieux à l'origine.
C'était un surnom moqueur, non ?
Complètement. Les Antioquiens aimaient beaucoup se moquer. Le suffixe est copié sur les factions politiques de l'époque.
Comme les Césariens pour César ?
Exactement. Ou les Hérodiens. Ils ont vu ces gens parler du Christ et ils les ont étiquetés sarcastiquement les partisans du Christ, les chrétiens.
Et c'est une étiquette que les fidèles ont fini par s'approprier avec fierté bien plus tard au second siècle ?
C'est ça. Mais au-delà de ce nom, ce réseau naissant va être mis à l'épreuve par une crise majeure.
La fameuse famille. Le texte mentionne l'arrivée de prophètes itinérants descendants de Jérusalem.
Ce qui est déjà, en soi, une structure de groupe unique dans l'Antiquité, contrairement aux oracles grecs qui étaient très solitaires et attachés à un temple.
D'accord. Et l'un d'eux annonce une grande famine.
Oui, une famine qui a d'ailleurs historiquement frappé l'Empire sous le règne de Claude, vers les années 45 et 51.
Et la réaction des croyants d'Antioche est fascinante. Logiquement, quand une famine mondiale menace, on thésauvise. On garde son blé pour soi.
Surtout une jeune communauté qui vient de se former.
Et pourtant, ils font l'inverse. Ils envoient des secours financiers en Judée.
À l'instar de la reine Hélène d'Adiabène, qui avait acheté du grain égyptien à prix d'or à la même époque.
Sauf qu'elle, c'était une reine. Là, on parle d'un réseau citoyen.
Et c'est hautement suspect pour l'Empire romain. Les organisations interprovinciales pour Rome, ça ressemblait très vite à de la rébellion.
Mais ce mouvement a ignoré ses frontières politiques. Ils ont créé un réseau de soutien solidaire entre cultures, malgré le risque.
C'est inédit.
Bon, résumons un peu cet incroyable trajet mental et géographique illustré par ces sources.
Le chemin parcouru est vertigineux.
On passe d'une vision de nourriture impure sur le toit puant d'un tanneur à un réseau d'entraide cosmopolite finançant la survie de gens à des centaines de kilomètres de là.
Une vraie révolution.
Le succès et l'expansion de ce mouvement précoce ont reposé entièrement sur la capacité de ses leaders à abandonner leurs règles culturelles et identitaires les plus sacrées.
La nourriture et la séparation stricte, oui. Ils ont dû tout désapprendre.
Ce qui nous laisse avec une pensée finale, peut-être un peu provocatrice pour chacun d'entre nous.
Je t'écoute.
Dans un monde aujourd'hui hyper connecté, mais paradoxalement très fragmenté, quelles sont nos propres frontières invisibles, nos propres règles intouchables qui nous empêchent aujourd'hui de créer ce genre de ponts radicaux et de connexions humaines mondiales?